France Inter, il est 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Soyez les bienvenus dans le 7-9. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 11 janvier. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une nouvelle campagne de dépistage massif. Après Le Havre, Charleville-Mézières, les habitants de Roubaix sont invités à passer un test Covid. L'objectif, c'est d'évaluer les conséquences des fêtes de fin d'année, de vérifier la circulation effective du variant anglais en cette semaine décisive dans la lutte contre le Covid. On voit cela, Agnès, en détail après les autres titres.
Le cauchemar sans fin des lycéens italiens, les ravages de la grippe aviaire dans les élevages du Sud-Ouest, un coin du voile se lève sur le tabou de l'inceste après le livre de Camille Kouchner, et puis Petit Bisu deviendra grand, le navigateur Benjamin Dutreux, révélation de ce Vendée Globe, alors qu'on apprend à l'instant la mort de Georges Pernoud, présentateur historique de Thalassa, l'émission de la mer sur France 3.
Les invités de France Inter, ce matin, à 7h50 avec vous, Léa.
Oui, un témoignage très fort. Elle a été enfermée pendant 3 ans comme 1 million d'Ouïghours dans un camp de rééducation en Chine. Elle raconte son calvaire dans un livre, Rescapée du goulag chinois, le premier témoignage d'une survivante Ouïghour. Gulbar Aitiwaji sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. On se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, avec l'écrivain Bruno Le Maire qui publie L'Ange et la Bête, mémoire provisoire chez Gallimard. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter. Plus de 100 000 personnes vaccinées à ce jour et la campagne va s'amplifier avec l'arrivée aujourd'hui des 50 000 premières doses du vaccin Moderna. Vacciner donc tout en continuant à tester massivement. C'est aujourd'hui que démarre la campagne de Roubaix. Objectif, tester 20 à 30 000 habitants en 5 jours pour un bilan post-réveillon et débusquer les variants qui circulent dans cette région proche de l'Angleterre. Une opération qui va se dérouler en 2 temps, Véronique Julia.
Plusieurs objectifs dans cette opération. Mesurer l'effet des fêtes de fin d'année, comparer l'efficacité des tests PCR et des tests antigéniques. Les habitants seront testés simultanément avec les deux méthodes. Affiner la logistique de l'isolement systématique des malades. Enfin et surtout, savoir précisément ce qui circule dans la région et quelles sont les mutations qu'on retrouve chez les patients infectés. Tous les cas positifs, mais aussi certains cas négatifs, douteux, seront envoyés au Génopôle d'Evry pour un séquençage complet. On va chercher à identifier si on retrouve du variant anglais ou sud-africain, mais pas seulement. Il faut avoir un coup d'avance, explique le professeur Philippe Frogel, qui pilote l'opération, car d'autres variants sont déjà peut-être à l'œuvre.
Si vous ne recherchez que ce que les autres ont trouvé il y a un mois et demi, vous ne voyez pas les nouveaux trucs qui vont apparaître un jour ou l'autre en France. Moi, je veux bien qu'on reconnaisse la variante anglaise, c'est important, mais j'aimerais bien qu'on reconnaisse la variante de la variante anglaise ou une variante de Romorantin, parce que si ça se trouve, la variante de Romorantin, elle serait pire. Donc, on a les machines, on a le savoir-faire. Si les anglo-saxons n'avaient pas fait du séquençage total des virus, ils ne l'auraient pas trouvé.
Les résultats des séquençages devraient être connus fin janvier. Philippe Frogel compte relancer l'opération 2 à 3 semaines plus tard pour évaluer la trajectoire épidémique, l'évolution éventuelle des variants, mais aussi cette fois comparer test PCR, test antigénique et test salivaire.
Et pour l'heure, c'est à Marseille que le variant anglais a été notamment détecté avec la découverte d'un foyer de contamination d'abord familial puis élargi. Sur 46 cas contacts, 23 sont positifs, dont 8 au variant anglais. Un cas détecté également dans les Hautes-Alpes. Variant anglais, contamination post-fête, la semaine qui débute sera décisive. L'exécutif enchaîne les rendez-vous. Comité de liaison parlementaire ce matin à Matignon entre Jean Castex et les chefs de groupe. Et réunion sur la stratégie de vaccination cet après-midi à l'Élysée pour la seule journée d'aujourd'hui. Hier soir, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que les cours au lycée ne reprendraient pas à 100% le 20 janvier, comme cela avait été annoncé en octobre dernier. Les épreuves de spécialité du bac sont pour l'heure maintenues au mois de mars. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h. Et puis hier, 8 nouveaux départements sont passés sous couvre-feu à 18h. La situation des lycéens italiens est encore plus compliquée. Moins de la moitié des régions rouvrent aujourd'hui les lycées et seulement à 50%. Certains sont privés de cours depuis près d'un an. Le gouvernement a beau assurer que l'école est une priorité nationale, la réalité est tout autre. Correspondance à Rome de Bruce de Galzin.
C'est la 4e fois que Daniel, 17 ans, vient manifester devant le ministère de l'Éducation. Il veut rentrer en classe, mais pas à n'importe quel prix.
Dans mon école, il n'y a pas assez d'espace pour accueillir 25 élèves par classe avec un mètre de distance. Et j'ai des amis qui ont peur de venir à l'école tellement les bus sont bondés. Ils ont peur de contaminer leur famille en rentrant à la maison. Ça, c'est pas possible.
Ricardo, lui, n'en peut surtout plus des cours à distance.
Moi, en ce moment, je ne suis plus rien. J'ai arrêté l'école à distance parce que pour moi, c'est pas l'école. C'est un plan d'urgence qui doit cesser. L'école doit rouvrir, même s'il faut faire des sacrifices.
Selon un sondage, un adolescent sur deux pense avoir perdu une année. Un sur quatre à un ami qui a abandonné l'école. Laura est parent d'élèves, très inquiète pour son fils et son pays.
En 10 mois depuis mars, mon fils est allé à l'école seulement 3 semaines. Je vois qu'il est à bout, psychologiquement, les rencontres, le rapport avec ses professeurs, tout ça lui manque. Il perd des connaissances et ça va le suivre toute sa vie. Selon une étude, les élèves italiens gagneront moins bien leur vie que les autres européens.
Quant aux professeurs, 70% d'entre eux estiment qu'il faut maintenir les lycées et universités fermés. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Situation alarmante en Allemagne, avec plus de 40 000 décès depuis le début de l'épidémie de Covid. Le pire est encore à venir, a déclaré hier la chancelière. 80% des lits de réanimation sont occupés autre Rhin. Le bilan mondial, plus d'1,9 million de morts, un an tout juste après l'annonce du décès d'un homme ayant fréquenté le marché du Yuran. L'équipe de l'OMS chargée de trouver l'origine du virus doit d'ailleurs entamer aujourd'hui sa visite en Chine.
Il est 7h07 après les Landes. Agnès, le ministre de l'Agriculture est attendu aujourd'hui dans le Gers.
Déplacement tous azimuts de Julien de Normandie pour tenter de rassurer des éleveurs de canards déboussolés par une épidémie de grippe aviaire hors de contrôle. Déjà plus de 600 000 bêtes euthanasiées. Reportage Stéphane Iglesis.
C'est la troisième épidémie de grippe aviaire en 4 ans et c'est sans doute l'épisode le plus violent. Pour le gouvernement et les professionnels, c'est une course de vitesse contre un virus qui provoque une véritable hécatombe dans les élevages de canards. Serge Morat est éleveur à Mugron dans les Landes.
31 décembre, je vois un canard malade. 1er janvier, 2 malades. Le samedi, 2 morts, 12 malades. Le dimanche, 3, 50 morts, plus de 100 malades. Lundi, 4, 190 morts. Autant de malades, une centaine ou plus. Et à ce jour-là, en moins d'une semaine, on a perdu 390, pratiquement 400 canards sur 660. Moi, je n'ai jamais vu une maladie aussi virulente, aussi rapide pour éliminer un troupeau.
En décidant l'abattage de toutes les volailles dans un rayon de 5 km autour des foyers infectés, c'est quasiment tout le département des Landes qui est touché, même dans les élevages de volailles bio, comme celui d'Émilie Deligny, à Parlebosc, c'est près de Dax.
On ne peut pas demander non plus aux éleveurs d'être... On travaille avec le vivant, donc même en claustration, le vivant est toujours là et on ne travaille pas... Dans une zone complètement aseptisée, quoi.
Le gouvernement et les éleveurs espèrent surtout éviter la contamination des départements voisins comme le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot et Garonne, où quelques cas ont déjà été repérés. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Toujours pas de quotidien L'Équipe dans les kiosques ce matin. 3e jour de grève pour la rédaction du journal qui dénonce un plan social et qui demande sa suppression. Aux États-Unis, l'offensive des démocrates de la Chambre des représentants pour évincer Donald Trump. Une résolution demandant à Mike Pence d'invoquer le 25e amendement de la Constitution doit être soumise au vote aujourd'hui. L'avenir de Donald Trump, on en parle dans le Zoom à 7h15 et analyse de Pierre Aski à 8h15. Retour en France avec l'espoir de voir le tabou de l'inceste enfin levé. Il y a eu en décembre l'annonce de la mise en place d'une commission indépendante sur l'inceste et toutes les violences sexuelles faites aux enfants. Le délai de prescription des crimes sexuels est passé à 30 ans après la majorité des victimes. Les policiers, les magistrats sont de mieux en mieux formés et ce sont souvent des faits médiatiques comme l'affaire Duhamel et le livre de Camille Kouchner qui libèrent la parole. C'est en tout cas le sentiment de Catherine que Thibault Lefèvre a rencontré.
Dès sa sortie jeudi dernier, Catherine a acheté le livre de Camille Kouchner. Le soir même, elle l'avait terminé.
Je lui adresse un grand merci. Après avoir fait cet acte de générosité, parce que le publier, c'est aussi pour toutes les autres victimes, jeunes ou plus âgées comme moi.
Catherine a aujourd'hui 56 ans. Elle en avait 12 quand son beau-père l'a agressée.
Je rentrais de l'école. Mon beau-père m'a appelée dans la cuisine et donc il m'a embrassée d'abord sur les lèvres et ensuite avec la langue. J'ai même encore le goût de ses lèvres. Puis j'ai cette espèce de désarroi de me dire que le premier homme qui m'a embrassée, ça restera toujours cet homme-là.
Pendant près de 10 ans, Catherine doit vivre avec son agresseur sous l'autorité d'une mère qui ne l'a jamais soutenue. Tout le monde savait et personne ne disait rien, comme dans la Familia Grande.
Ce livre... C'est comment le secret peut-il être maintenu dans ces familles ? J'ai eu besoin de comprendre comment la mère avait réagi. J'écornais les pages pour dire « elle a réagi comme ma mère » en s'enfermant dans le fait que, en gros, tu vas pas me voler mon amour, quoi. C'est quelque chose dont on ne parle pas. On a honte.
Catherine élève aujourd'hui seule son fils de 15 ans. Elle dit n'avoir jamais pu ou voulu construire sa vie avec un homme.
Un témoignage à retrouver en longueur sur franceinter.fr. Ce générique, vous le reconnaissez sans doute, c'est celui de Thalassa qui, pendant plus de 40 ans, a été présenté par le journaliste Georges Pernoud, dont on vient d'apprendre le décès à 73 ans. Décès suite d'une longue maladie, selon sa fille, qu'il a annoncé à l'agence France Presse. Ce magazine, c'était tous les vendredis soirs sur France 3, le magazine de la mer, qui a fait découvrir la mer à tous les téléspectateurs qui ignoraient souvent ce monde assez fermé. Et justement, la mer, on en parle avec la révélation de ce Vendée Globe. Actuellement 6e au classement, Benjamin Dutreux s'est battu avant la course pour faire partir son vieux bateau malgré les aléas des sponsors. Et il se bat actuellement dans les mers du Globe, sans foil, mais non sans courage. Léo Rosé.
Benjamin Dutreux s'étonne lui-même d'être encore dans le top 10 à ce stade de la course.
C'est sûr que remonter l'Atlantique bord à bord avec, avec Jean Le Cam à la 6e place, non, c'est sûr que. Même avec nos petits moyens, on a fait les choses bien. Donc je suis vraiment fier de me retrouver à cette place-là, c'est clair.
Quel que soit son classement final, le skipper de 30 ans se réjouit déjà d'avoir passé le Cap Horn pour la première fois.
C'est un peu le truc qui sonne et qui dit « voilà, ça y est, t'as traversé trois océans, l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien ». Et donc ça, dans une vie de marin, c'est déjà un truc de malade.
Son sponsor principal se retire l'été dernier. Il boucle son budget in extremis, contracte un crédit pour acheter son bateau, un vieux modèle en aluminium, sans foil.
Tout le travail qui a été fait par l'équipe, plus le fait d'avoir galéré tellement à trouver des sponsors, etc., et à être au départ, tout ça, c'est des sources de motivation supplémentaires dans les moments difficiles, c'est clair.
Sur l'île Dieu, le fief familial, le quotidien de sa maman, Véronique, a changé.
Je fais pas un pas sur l'île Dieu sans qu'une personne le félicite. Pour dire déjà d'être là et d'avancer sur le Vendée Globe, c'est exceptionnel.
Benjamin Dutreux a glissé récemment à sa mère qu'il est en manque de fruits. Elle l'accueillera donc à l'arrivée avec une corbeille.
Voilà, et pour l'instant, dans la course au Vendée Globe, Yannick Bestaven reste en tête. Mais son écart se réduit avec son principal poursuivant, Charlie Dalin.